si vous êtes ici en tant que visiteur ce matin, bien sachez que nous sommes au milieu d'une série, sur l'argent, parce que nous, la manière qu'on approche la Bible, c'est qu'on l'étudie systématiquement, dimanche après dimanche. On est dans une épître, une lettre qui s'appelle 1 Timothée, et là on est dans le chapitre 6, et on fait toute une série de 3 dimanches sur le sujet de l'argent. Alors, j'ai bien sûr un petit peu résumé ce qu'on a déjà dit, mais on continue. Donc, le titre officiel, c'est « L'argent, qu'en dit la Bible ?» L'argent, qu'en dit la Bible ? Et peut-être avant de regarder le détail du texte devant nous, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles à Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, pour un petit peu nous rappeler le contexte. Alors, bien sûr, l'argent, qui n'y pense pas ? L'argent est-ce qu'on peut dire un mal nécessaire de la vie? Eh bien, on est obligé de faire face au domaine de l'argent. Et là, nous avons l'histoire, la parabole d'un homme qui a dû, lui, gérer ses biens. Alors, c'est très intéressant, c'est très court, mais vraiment poignant. Alors, nous sommes dans Luc 12, à partir du verset 16, c'est ce qu'on appelle la parabole du riche insensé. D'accord? Je vais simplement la lire et donner 2 ou 3 petits commentaires comme introduction. Donc, Luc 16, à partir du verset 16. Jésus parle et leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Verset 23. La vie est plus que nourriture et le corps plus que le vêtement. Intéressant cette petite histoire, cette parabole de cet homme riche. Alors moi, en la parcourant, je me suis posé 2-3 questions. Premièrement, était-ce un mal que cet homme avait des terres qui avaient beaucoup rapporté et c'était un mal qu'il était riche? La réponse est non. Il y a beaucoup d'hommes riches et pieux dans la Bible. Ça, c'était pas un mal, en fait. Qui avait même permis que les récoltes soient grandes? Ben, Dieu. Était-ce un mal qu'il voulait bâtir des greniers plus grands? Est-ce que ça, c'est un mal en soi? Non, je ne pense pas. Et nous le verrons tout à l'heure, la fourmi est un exemple dans la Bible d'une sage prévoyance. Il faut amasser quelque chose pour les jours où on n'a rien. Donc en soi, ce n'est pas mal d'amasser. Était-ce un mal de vouloir profiter de ses biens ? De dire, ouais, j'ai bien gagné ma vie, bon, ben maintenant je vais en profiter. Je pars en croisière, disons, hein. C'est peut-être ce qu'on dirait nous. Eh bien non. La Bible nous dit que nous pouvons jouir de nos richesses. 1 Timothée 6, 17 nous le dit. C'est pas un mal de profiter des richesses qu'on pourrait avoir. Mais alors, où était le problème? Parce que Dieu l'appelle insensé, stupide. Où était le problème? Eh bien, le verset 20 nous dit qu'il avait passé sa vie à pourvoir matériellement pour lui, mais il avait négligé une chose très importante. Il avait négligé de réfléchir à son âme. Verset 20, « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Il avait négligé de réfléchir à son âme. Et deuxièmement, nous apprenons qu'il avait oublié d'être riche envers Dieu. Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il n'y avait qu'une catégorie dans sa vie, lui. Dieu n'était même pas dans la situation, même pas dans l'équation. Il avait négligé d'être riche pour Dieu. Et 3, Il a négligé de comprendre que la vie n'est pas que matérielle. C'est ce qu'il dit au verset 23. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que vêtements. Il y a beaucoup plus à la vie que simplement le matériel. Et ça, c'est la grande leçon. Cet homme était insensé parce qu'il avait oublié d'inclure Dieu dans ses projets financiers. Alors ça, c'est l'introduction de cette série. L'argent, qu'en dit la Bible. Et en fait, nous avons divisé cette section, cette série en quatre parties. L'argent, comment être contenté, ça c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. L'argent, comment le gagner. L'argent, comment s'en méfier. Et l'argent, comment le gérer. Alors nous sommes dans 1 Timothée 6 et j'aimerais juste lire ces quelques petits versets. 1 Timothée 6 à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors juste pour réviser brièvement ce qu'on a vu la semaine dernière, alors nous avons en premier commencé, et cela a été important, comment être contenté, comment être contenté financièrement, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Alors, le verset 6 nous dit clairement qu'on peut être contenté et le contentement vient vraiment à cause de la piété. La piété, c'est simplement notre amour pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne le contentement, que nous soyons riches ou pauvres. Et la raison que nous devrions apprendre à être contentés, c'est que le texte nous dit au verset 7 et 8 que de toute façon, à la fin, lorsque nous mourrons, et nous devons tous mourir un jour, on emporte quoi avec nous? Rien. Zéro. Tout reste. Tout reste. Donc, à quoi ça sert de se donner littéralement à ses possessions matérielles quand de toute façon, à la fin, on perd tout? Donc, il y a autre chose à la vie que simplement ici. Il y a le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 8 que si nous avons nourriture et vêtements, cela nous suffira. La base des choses nous suffit, mais ce n'est pas un mal, et ça on va le voir encore, d'avoir plus que le nécessaire, dépendant du cœur. Donc ça, c'était le principe du contentement financier. Ensuite, on a vu la méthode du contentement financier. Alors, je vais simplement donner les points parce que, sinon ce serait de refaire le message. On a vu simplement, premièrement, que le contentement financier s'apprend. Deuxièmement, le contentement financier est possible pour tout le monde. Troisièmement, le contentement financier a comme source le Seigneur. Quatrièmement, le contentement financier reconnaît Dieu comme étant l'auteur et le propriétaire de toute vraie richesse. Cinquièmement, le contentement financier reconnaît que c'est Dieu qui distribue les richesses et qui rend l'homme capable de les acquérir. Six, nous avons vu que le contentement financier reconnaît que les richesses sont passagères. Sept, que le contentement financier reconnaît le danger de l'amour des richesses. Huit, le contentement financier met Dieu avant toute autre chose dans la vie. Et neuf, le contentement financier est généreux. Alors ça, c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Ensuite, on a commencé ce prochain sujet, mais je le recommence à zéro, d'accord? Deuxième grand point, l'argent, comment le gagner? Alors là, ça devient intéressant, vous trouvez pas? D'accord? L'argent, comment le gagner? Alors premièrement, on va voir les mauvaises manières de gagner l'argent selon la Bible, et ensuite on va voir les bonnes manières de gagner l'argent selon la Bible, d'accord? Alors premièrement, les mauvaises manières de gagner l'argent, un, nous ne devons pas voler l'argent. D'accord? Ça, c'est pas une bonne idée. Exode 20:15. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Et on a vu que le vol était quelque chose de gravissime dans la Bible. Et ça, on le voit par ce qui se passe vis-à-vis de gens qui volent. Au verset chapitre Exode 22:1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Donc, si tu voles une vache, tu dois en rendre 5. Ça, c'était la loi ancien testamentaire sur le vol. Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Et nous avons aussi regardé la semaine dernière des manières plutôt sophistiquées de voler. Hein. Ce n'est pas simplement d'aller voler une banque ou une bijouterie, mais nous pouvons voler en exagérant les déductions de nos impôts, la paresse au travail pour une rémunération pleine, mais un travail moins que plein. Peut-être le vol de produits au travail pour usage personnel, peut-être exagération de frais de déplacement. Bref, il y a toutes sortes de manières de le faire. Nous avons aussi vu que la loi sur le vol, en fait, si on prend l'envers de cette loi, donne le droit à la propriété personnelle. Si je ne dois pas voler ce qui appartient à un autre, ça veut dire que Dieu reconnaît que nous avons le droit de posséder des choses. Donc ce n'est pas un mal de posséder des choses. Et justement, le 10e commandement nous parle de ça. Il dit au Exode 20:17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous avons le droit d'avoir ce que nous appelons la propriété qui est la nôtre. Des possessions personnelles, ce n'est pas un mal. C'est tout à fait biblique. Donc ça, c'est la première manière qu'il ne faut pas gagner l'argent par le vol. Deuxièmement, nous ne devons pas exploiter les gens par des intérêts trop élevés. D'accord, de prêter de l'argent avec des intérêts trop élevés. Alors dans Matthieu 25, on y viendra tout à l'heure, donc je ne vais pas aller très long sur ce point. C'est la parabole des talents où Jésus donne dans cette parabole le droit aux intérêts. Ce n'est pas un mal de demander un intérêt, mais l'Ancien Testament, par exemple dans Lévitique 25, parle de la condamnation de ce qu'on appelle l'usure. L'usure, c'est un taux d'intérêt excessif. C'est le taux d'intérêt défini par la loi qu'un prêteur, quel qu'il soit, ne peut pas dépasser. Et la Bible nous dit, ok pour un intérêt, mais pas trop élevé. Trois. Nous ne devons pas retenir les salaires mérités de nos employés. Si vous avez une société, vous avez des employés, vous les payez, et vous les payez, disons, le 15e du mois ou le 1er du mois. Mais il ne faut pas les payer alors un ou deux ou trois jours trop tard. Il faut les payer le jour même. Alors c'est intéressant ce petit point, car dans Jacques 5 et le verset 4, nous lisons, « Voici le salaire des ouvriers. » Alors il parle aux riches, des gens qui sont riches, qui ont des employés, mais ils gèrent mal leur société. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Donc vous avez frustré en ne pas payant de manière adéquate ni à l'heure vos salariés. C'est intéressant que même la Bible nous donne pourquoi c'est un mal de ne pas payer à l'heure les salariés. Deutéronome 24 et le verset 15 nous dit « Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. » Donc c'était, là on parle des salariés journaliers. Donc ils étaient engagés pour travailler un jour et on les paie à la fin de la journée. Il dit, verset 15, « Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » De ne pas payer le salarié à l'heure va le frustrer contre toi. Alors moi, j'ai fait un petit calcul. Imaginez qu'il y a un patron qui a 100 salariés et qui paye, je dis n'importe quoi, mais qui paye ses 100 salariés 5000 francs par mois, disons, d'accord ? 5000 francs par mois pour les 100 salariés. Ça fait donc 500 000 francs par mois de salaire à payer. Fois 12, ça fait 6 millions de francs de salaire à payer. Et disons, hein, je sais que c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais c'était pour faciliter, 5% d'intérêt. Ça fait donc 300 000 francs divisé par 365 jours égale 821 francs d'intérêt par jour sur la somme totale du salaire. Voici ce qu'il gagnerait à 5% total par jour d'intérêt sur ses salaires. D'accord ? Donc, en retenant le salaire de 100 employés pour un jour, lui donne 1000 francs d'intérêt. S'il retarde le salaire de 3 jours, 3000 francs d'intérêt. Donc, on voit que cela peut non seulement frustrer le salarié, mais enrichir celui qui paye. Donc, payons à l'heure. quatrième manière de ne une mauvaise manière de gagner l'argent. Nous ne devons pas gagner de l'argent par des pots de vin. D'accord ? Des pots de vin. Alors, Exode 23:8 nous dit « Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » L'argent a une manière de corrompre quelqu'un. Et donc, le chrétien ne devrait jamais accepter cela. Proverbe 15:27, celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Nous devrions haïr les présents, donc c'est-à-dire les pots de vin. On devrait dire tout simplement non. Si vous décidiez de les accepter quand même, ben sachez que vous seriez aussi dans le club, pas très célèbre, des soudoyés de la Bible. Judas, par exemple, qui, lui, a été soudoyé par les hauts sacrificateurs et a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Moi, je ne veux pas trop être dans ce club. Ou les soldats qui ont été soudoyés par les hauts sacrificateurs pour déclarer que le corps de Jésus avait été volé et pas ressuscité. Cinquième manière de ne pas gagner l'argent, nous ne devons pas chercher à gagner de l'argent par le jeu. Le jeu. Alors, pourquoi pas ? Alors, ça ne va pas être une étude exhaustive, mais juste quelques points quand même intéressants à noter. C'est quoi le but ultime de jouer ? Ben, c'est de décrocher le gros lot sans devoir travailler. Voilà, c'est pas compliqué. On aimerait quelque part faire fortune et emporter le magot sans devoir soulever un petit doigt. Ça, ce serait super. Alors, le problème, c'est que cela peut très vite susciter en nous l'amour de l'argent. Et 1 Timothée 6:10 dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et que quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le jeu clairement anime la convoitise dans le joueur. La convoitise dans le joueur, et on vient de lire Exode 20, 17, le dernier commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, etc., etc., etc. Donc souvent, lorsqu'on joue, ça découle d'une convoitise. On veut plus. Pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, surtout quand on devient accro. Aussi, le jeu révèle que peut-être je ne suis pas vraiment totalement satisfait avec la condition que Dieu m'a donnée. Ça, c'était le premier message qu'il faut écouter la semaine dernière. Je n'ai tout simplement pas appris le contentement financier, donc cela révèle que peut-être il n'y a pas une piété dans ma vie qui devrait être là, qui me donne le contentement. Et donc, je dois faire recours à d'autres moyens pour essayer de gagner le gros lot. Et je dirais peut-être un des plus grands problèmes et dangers avec cela, c'est que le jeu peut tout simplement lier le joueur à cette passion. Tu deviens accro, quoi. Tu peux plus t'en défaire. 1 Corinthiens 6:12 nous dit tout simplement « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Est-ce que je deviens asservi ? Est-ce que je deviens accro à ce besoin de jouer en espérant que peut-être en jouant, je gagnerai quelque chose ? Vous dites « Ouais, mais c'est des petites sommes. » Alors, ça commence avec les petites sommes. Vraie histoire, absolument vraie. Il y a peut-être 25 ans en arrière, mon frère qui est pilote, habitait à Los Angeles, il avait un ami, un client, qui était un accro du jeu à Las Vegas. Et de Los Angeles à Las Vegas, c'est environ une heure d'avion. Donc il avait un petit avion, mon frère. Et alors, ce client travaillait dans sa société toute la journée et engageait mon frère, tous les soirs, d'aller vite à Las Vegas, jouer quelques heures et revenir à Los Angeles. Et un jour, mon frère m'a dit « Est-ce que tu as envie de venir pour voir ?» Je dis « Ouais, super, parce que Las Vegas, tout le monde veut voir. » Alors, moi et un ami, il nous a pris. Moi, j'étais chrétien, je faisais des études à la faculté de théologie. Alors, je vais aller voir. Donc, on y va, on prend l'avion, on va à Las Vegas, on atterrit. Et alors, bien sûr, ce joueur qui était le client de mon frère, qui était aussi dans l'avion, était très connu de Las Vegas. Donc, ils nous ont donné, parce que je faisais partie du parti, une des immenses suites dans un immense hôtel pour la soirée. Puis tout était gratuit. Et pendant que lui jouait, ben nous, on était là, parce que moi, je jouais pas, et je joue toujours pas, d'accord? Et à la fin de la soirée, quelques heures plus tard, cet homme revient, il avait gagné beaucoup d'argent ce soir-là. Il nous a dit, écoutez, moi, je n'aime pas sortir de l'hôtel parce que je suis connu avec tout l'argent, donc voilà. Il nous a remis à chacun une pile de billets de 1000 dollars. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être 50 ou 100 000, je ne sais pas, peut-être 200 000, je n'ai aucune idée. Il a dit, mettez cet argent dans vos pantalons. Alors j'ai pris l'argent, j'ai mis dans mes pantalons, on a tous fait pareil. Alors je sors maintenant du casino de Las Vegas, très riche, mais ce n'était pas mon argent, d'accord? Et on retourne à l'aéroport et on rentre à Los Angeles, on lui rend l'argent. Est-ce que vous croyez qu'il nous a donné un pourboire? Non. Zéro, d'accord? Pour ce service rendu. 6 mois plus tard, cet homme a été mis en prison. Parce qu'il a ruiné sa société par des magouilles pas possibles pour aller à Las Vegas et jouer. C'est une vraie histoire. Combien de vies brisées, combien de familles brisées à cause de jeu. Donc, ce n'est pas une bonne idée, n'est-ce pas, de jouer. Ça suscite vraiment le mal, probablement, dans le cœur. Alors, quelles sont les bonnes manières de gagner l'argent? D'accord? Passons aux bonnes manières de gagner l'argent. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. La première manière de gagner l'argent dans la Bible, c'est le travail. Alors, si vous voulez tous partir, pas de problème, d'accord? Vous croyez que j'allais vous donner la formule magique? Non, il n'y a pas de formule magique, c'est le travail. C'est le travail. Bibliquement, le travail est la première façon de gagner de l'argent, mais pas nécessairement, et ça je l'avoue, la plus populaire. D'accord? Alors, c'est intéressant. Alors, j'ai fait tout un message là-dessus, donc je ne vais pas revenir dans le détail, mais vous pouvez prendre un message que j'ai donné qui s'appelle « Le retour au travail, comment faire face ?» tiré de 1 Timothée 6, 1 à 2, où j'explique la nature du travail et d'où le travail est venu. Mais juste pour résumer en quelques mots, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il est intéressant de constater que même si Dieu pourvoit entièrement à ses besoins, c'est avant la chute de Genèse 3, Dieu met Adam au travail et lui demande de garder et de cultiver le jardin, et ensuite il lui demande de nommer tous les animaux dans le jardin d'Éden. Et donc cela avant la chute, c'est ça ce qui est important. Cela implique que le travail n'est pas le résultat de la malédiction, du péché, mais que le travail est bon en soi. Le travail n'est pas, comme je viens de le dire, le résultat du péché. Il est intrinsèquement bon, c'est une bonne chose de travailler. Alors bien sûr, il est vrai qu'à partir de Genèse 3, le travail est devenu pénible. De nouveau, ce n'est pas le travail qui est pénible, mais disons, le travail en soi c'est bien, mais à cause de la malédiction, les conditions qui accompagnent le travail, eux, deviennent pénibles. Mais le travail en lui-même donne à l'homme un bien-être personnel. Exode 20, déjà dans l'Ancien Testament, verset 9 nous dit « Tu travailleras 6 jours, dit Dieu, et tu feras ton ouvrage ». Mais, verset 10, le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc Dieu a décrété très tôt que l'homme devait travailler. Vous dites, ouais, mais déjà, moi, je ne travaille que 5 jours, peut-être 4. Oui, mais souvent, ce 5e ou le 6e jour, vous ne travaillez pas. Souvent, vous travaillez à la maison, peut-être, sans rémunération. Mais vous faites toutes ces autres choses que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant les jours de travail. Donc c'est vrai qu'on travaille globalement 6 jours par semaine. Et ensuite, on a un jour de repos, du moins, ça c'est l'idée. D'accord? Alors, quelques principes bibliques sur le travail, puisque le travail nous concerne tous. Premièrement, la Bible dit que celui qui travaille honnêtement aura... Alors, globalement, c'est un principe, il aura assez pour pourvoir à ses besoins. Proverbe 28, 19 nous dit tout simplement ceci. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Globalement, c'est un principe, si tu travailles, si tu as un travail bien sûr, eh bien tu vas pouvoir gagner ta vie pour pouvoir vivre de manière, espérons, décente. Deuxièmement, on peut dire que la Bible condamne fortement la paresse. Ça, c'est le vrai problème, c'est la paresse. Proverbe 24, verset 30, dit ceci. « J'ai passé près du champ d'un paresseux. » Donc, c'est un gars qui se promène et il voit des champs Il voit des champs, toutes sortes de champs, mais là, tout d'un coup, il voit un champ et il sait que c'est le champ d'un paresseux. Il dit ceci, « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Alors attention, ici il ne parle pas de quelqu'un qui ne peut pas travailler. Peut-être quelqu'un est au chômage, c'est pas de sa faute. Peut-être quelqu'un a des problèmes médicaux, c'est pas de sa faute. Non, ici il est en train de souligner le problème de ceux qui ne veulent pas travailler. Le chômage est une chose terrible. Je sais qu'il y a quelques personnes dans l'église qui ont dû passer par le chômage et qui sont actuellement dans le chômage. Nous devons prier pour eux, que Dieu leur redonne un travail rapidement. Et on peut aussi remercier le Seigneur pour notre système social qui pourvoit des indemnités de chômage. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ce n'était pas comme ça à l'époque. Non, là, ce sont les circonstances particulières. Là, on parle, nous, ici, de la paresse. La paresse, c'est quoi? C'est le comportement de celui qui évite l'effort. Petit Robert, génial. D'accord? Celui qui cherche des moyens à éviter l'effort. Tout pour faire moins. D'accord? Tout pour faire moins. C'est ce qu'on appellerait le fainéant, le flemmard. C'est celui qui n'aime pas se fatiguer et qui n'est jamais content. Alors, peut-être un des versets les plus géniaux sur ce point-là, c'est 2 Thessaloniciens 3:10. Écoutez très bien. 2 Thessaloniciens 3:10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, je répète, si quelqu'un ne veut pas travailler, virgule, qu'il ne mange pas non plus. Écoutez, mes amis, pas d'aide sociale aux flemmards, point à la ligne. Non, pas d'aide sociale à ceux qui ne veulent pas travailler. Ceux qui ne peuvent pas travailler, c'est autre chose. Ceux qui ne veulent pas travailler, c'est radical. Et ça, c'est nouveau testamentaire, pas que ancien testamentaire. Donc, la Bible condamne fortement la paresse. Troisièmement, la Bible, on est encore sous le domaine du travail, la Bible illustre l'honorabilité du travail par la fourmille. Alors, c'est très beau. Proverbe 6, vous pouvez aller avec moi si vous voulez à Proverbe 6, et le verset 6. C'est un proverbe, donc il nous demande de tirer une leçon de la fourmi. Proverbe 6, 6, va vers la fourmi paresseux. Donc, si vous connaissez un paresseux, par exemple, dans votre entourage, vous lui dites, tu sais, viens, j'aimerais te montrer un truc. Vous allez trouver une fourmilière dans votre jardin. Si vous n'avez pas de jardin, vous venez dans mon jardin, d'accord? J'en ai plein. J'aimerais te montrer quelque chose. Regarde ces fourmis. C'est vrai que c'est intéressant. Vous mettez à quatre pattes, vous regardez attentivement la fourmilière. Ça n'arrête pas de bouger. C'est incroyable. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Automotivée. Elle prépare en été sa nourriture, prévoyante, et amasse pendant la moisson de quoi manger pour l'hiver. Économie. Voilà. Voilà comment apprendre à un paresseux de ne pas être paresseux. Regarde la fourmi. Le travail est honorable et la fourmi nous le montre. Et puis d'habitude, les fourmis sont bien dans leur peau, vous savez. Je dis n'importe quoi. Mais je pense qu'elles sont vraiment contentes de travailler, quoi. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu des fourmis dans une chaise longue en train de bronzer? Non, ça se voit pas. Parce que il y a une leçon. Il y a une leçon du travail ici. Dieu veut que nous soyons des travailleurs. Alors, quelle est la juste perspective? Et ça, c'est le travail, je dirais, la richesse. Il y a un équilibre, il y a une juste perspective. D'accord? Ça, c'est le dernier point, la juste perspective sur le travail. Proverbe 30 et le verset 8. C'est une prière. Et l'auteur dit à Dieu, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je te renie. Et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Seigneur, ne me donne pas trop, parce que si j'ai trop, je vais moins dépendre sur toi. Mais si tu me donnes trop peu, je risque de devoir déshonorer ton nom en volant quelque chose. Donc donne-moi juste de quoi j'ai besoin. Et Seigneur, et ça c'est le premier message, apprends-moi à être contenté financièrement. Et donc tout dépend de ma relation avec toi. Donc, comment gagner de l'argent? Numéro 1, par le travail. D'accord, super. Donc vous êtes content de retourner au travail demain matin, n'est-ce pas? À la gloire de Dieu. Bon, il y a d'autres manières qu'on peut gagner de l'argent, d'accord? Numéro 2, on peut gagner l'argent par les dons financiers. La Bible reconnaît clairement que les dons font partie de la vie. Par exemple, c'est votre anniversaire et vous recevez un don financier. Peut-être c'est un mariage, vous recevez un don financier. Noël, les enfants aiment Noël, parce que c'est le gros lot des dons financiers, d'accord? Ou peut-être vous avez un besoin quelconque et quelqu'un vous fait une gentillesse, il vous donne un don financier pour vous aider. Ben ça, vous pouvez remercier le Seigneur. Vous pouvez remercier le Seigneur pour ça. Et je pense qu'on a probablement à un moment donné, dans notre vie, reçu de dons de quelqu'un, donné des dons à quelqu'un. Alors, même l'apôtre Paul, lui, vivait de dons. Dans Philippiens 4, 10, il dit... J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Et donc voilà, il remercie l'église de Philippe parce que, bien que c'était un des fondateurs de l'église, eh bien ils ont jugé, ils voulaient lui faire un don financier, il les remercie. Il leur dit, écoutez, merci. En fait, toute la lettre de Philippiens, c'est vraiment à la base un remerciement pour un don financier qui lui a été fait. C'est intéressant d'y penser qu'à la naissance, à sa naissance, Jésus, vous rappelez? Il était bébé, il a aussi reçu des dons. Les rois mages sont venus, lui ont offert or, encens et myrrhe dans Matthieu chapitre 2. Jésus aussi recevait des dons et vivait de ses dons. Et vous verrez dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, combien les dons faisaient partie de l'hospitalité de l'époque. Donc si quelqu'un vous donne un don, vous pouvez remercier cette personne pour le don. Troisième manière de gagner l'argent. Troisième manière de gagner l'argent, on peut gagner l'argent par l'héritage. L'héritage. Si votre tante Béatrice meurt soudainement et vous laisse 10 millions de francs inattendus, vous pouvez remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Absolument. Proverbe 19, 14. Il y a beaucoup de versets sur les héritages. Juste un. C'est intéressant ce verset. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Donc, il est en train de dire une chose neutre, ce qui est vrai. Donc, on peut. Donc, c'est pas un mal. On peut hériter une maison et des richesses. C'est intéressant le reste du verset. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc, une femme intelligente, une femme super, qui aime le Seigneur, vient du Seigneur. Mais les héritages, vient de nos membres de famille. C'est intéressant le contraste là. Mais nous pouvons hériter. Ce n'est pas un mal d'hériter. Vous rappelez dans Luc 15, la parabole du fils prodigue. Eh bien, un des fils a été vers son père et lui a dit, écoute, j'aimerais avoir la part qui m'est due. Alors le père n'a pas contesté. Il a donné la part de l'héritage à ce fils parce qu'il savait qu'à un moment donné, le fils allait recevoir cette part. Alors, est-ce que c'était juste de lui donner à ce moment-là ou pas? C'est une autre question. Tout ça pour montrer simplement que l'héritage est une manière de recevoir de l'argent. Intéressant, petit verset que vous aviez peut-être pas connu, dans 2 Corinthiens 12, 14, « Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais aux parents d'amasser pour leurs enfants. » Alors, bien sûr, il y a des situations où les enfants doivent aider leurs parents, parce que les parents n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, mais globalement, dans la normalité des choses, les parents amassent et laissent quelque chose à leurs enfants s'ils le peuvent. Alors, il y a un danger, par contre, avec l'héritage. c'est qu'on peut devenir, écoutez bien, obsédé avec ce qu'on peut percevoir être notre dû. On commence à faire les calculs. Combien de familles ont été brisées, ont éclaté à cause de problèmes d'héritage? Attendre un héritage peut très facilement se traduire en un amour de l'argent et de ses richesses. Alors, je ne suis pas un pro dans la matière, mais je vais vous donner ma pensée. Si vous pensez un jour peut-être hériter de l'argent, d'accord? C'est pas un mal. Mais commencez aujourd'hui déjà à protéger votre cœur. Protégez votre cœur. De l'amour des richesses. Et peut-être il est sage de mettre dans votre esprit, dans votre tête, la possibilité que vous ne recevrez rien. Parce que comme on a vu avec la crise financière actuelle, tout peut changer très vite. Donc gardez votre cœur. Ne mettez pas votre espérance sur un héritage quelconque. Dites-vous, peut-être je vais recevoir rien du tout. Et maintenant, si à la fin vous recevez quelque chose, ben vous bénissez le Seigneur. Et si vous recevez rien du tout, ben vous dites, ben voilà, moi j'étais prêt. J'étais prêt. Ça commence maintenant, se préparer pour la possibilité. Quatrièmement, je termine juste cette section, quatrièmement, on peut gagner l'argent par l'épargne. L'épargne. La Bible parle du fait que l'épargne est non seulement une façon légitime de se faire de l'argent, mais une grande vertu, le signe d'une personne responsable. Le problème, c'est que c'est de moins en moins, on a l'impression, une vertu de nos jours. Proverbe 13, 11. La richesse mal acquise diminue. Écoutez bien. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. C'est intéressant, comme petit verset. Celui qui amasse peu à peu l'augmente. C'est une vertu. Proverbe 21, 20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Il est en train de dire, voilà, il y a sagesse à mettre de côté une part. Et de ne pas tout engloutir. De nouveau, nous avons vu ce passage dans Proverbe 6,6 sur la fourmi. La fourmi qui épargne pour son besoin en hiver. Et 2 Corinthiens 8,13 nous parle que Paul demande à l'Église d'aider d'autres églises avec leur superflu. C'est quoi un superflu? Ben, c'est une part que tu as mis de côté. Donc voilà. On peut gagner l'argent par l'épargne et cinquièmement, on peut gagner l'argent par des investissements sages. Des investissements sages. Alors la question se pose, est-ce qu'un chrétien a vraiment le droit d'investir de l'argent? Dans la bourse par exemple, ou dans l'immobilier, ou dans quelque chose d'autre. Ben, c'est intéressant, dans Matthieu 25, Jésus donne une parabole, la parabole des talents. Alors, on ne va pas regarder la parabole. Le but de cette parabole, c'est d'enseigner le service fidèle au Seigneur avec ce que Dieu nous a donné, que ce soit financier, mais aussi que ce soit des dons spirituels ou autres dons. D'accord ? Il veut simplement qu'on soit fidèle avec ce qu'il nous a donné et qu'on l'utilise pour lui et pour sa gloire. Alors, dans le verset 27 de Matthieu 25, il dit ceci. Il gronde un des serviteurs un de ses serviteurs et il dit au verset 27, « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Alors, Jésus n'est pas en train, ce n'est pas une parabole sur l'argent et sur le système financier et sur le fait de gagner de l'intérêt. Ce n'est pas le but. Le but de la parabole, c'est que nous soyons fidèles avec ce que Dieu nous a donné. Mais il utilise l'illustration d'une banque où de l'argent est remis au banquier et où il retire ce qu'il a mis avec intérêt. Et là, il dit que c'est une bonne chose. Il approuve le système en utilisant cette illustration. Et nous ne pensons pas que Jésus utiliserait une illustration positivement appliquée comme ceci s'il était contre l'intérêt des banques. Donc nous concluons qu'il est tout à fait sage de faire des investissements sages. Sages. Avec un retour garanti. C'est très différent que le jeu. Très différent que le jeu. Alors voilà, mes amis, ce que la Bible dit très brièvement sur comment ne pas gagner l'argent et comment gagner l'argent. J'aimerais résumer le tout et je termine. Vous savez quel est le vrai cœur du problème ici ? C'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est là où la chose est soulignée. Et c'est pour ça que dans Timothée 6, maintenant pour revenir à un autre texte, c'était vraiment du thématique ce matin, d'accord ? Mais il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement, c'est une question du cœur. Et le contentement ne peut venir qu'avec une relation dynamique avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, devient notre contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais le monde nous dit, mais vous êtes fous d'avoir ce genre de politique. Pour politique, c'est beaucoup dire. Non, c'est ça, c'est le contentement financier. Seigneur, écoute, moi j'accepte ce que tu me donnes, mais si tu le prends, bah, écoute, mon contentement, il est en toi. Toi, tu es la stabilité dans ma vie. Pas mon argent, pas mes comptes en banque, pas mes greniers, pas mes investissements. Et c'est pour ça que dans Philippiens 4, 13, ce verset qui est tellement utilisé hors contexte, mais dans Philippiens 4, Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation, verset 12, je sais vivre dans l'abondance. Seigneur, je sais vivre avec beaucoup, et je sais vivre avec peu. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Mais tu dis, mais comment est-ce qu'il peut être bien dans ces deux conditions contrastées? La clé, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. La clé, mes amis, c'est Jésus-Christ. Car Christ peut rentrer dans ton cœur et te pardonner. Il te lave. Et il prend ton cœur et il le remet droit devant Dieu. Et tout d'un coup, tes passions changent. Ton désir de t'enrichir, de devenir riche ou un millionnaire, ou je sais pas quoi, ça change. Maintenant, tu veux plaire au Seigneur, tu travailles, tu investis. Peut-être qu'il te fera de toi un millionnaire, peut-être pas. Et quoi ? Avec ce que tu as, tu le glorifies. Mais l'important, c'est que tu es contenté et bien devant Christ. Amen. C'est la clé. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous. Oui, mes amis, c'est Christ la clé. La piété avec le contentement. La piété, c'est que je t'aime, je te loue, je t'adore, je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec la parole de Dieu. Je te connais, tu es mon sauveur, mon Seigneur. Tu es la source de mon contentement, tu es la source de mon bien-être. Que je sois malade ou que je sois en bonne santé, que je sois pauvre ou que je sois riche. Que je sois dans l'épreuve ou dans la joie, Seigneur, c'est toi la source. C'est à toi que je m'accroche jour après jour. Peut-être tu es ici ce matin, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le jour où tu réalises que tu étais sur une fausse voie? Et que ton Dieu finalement a été peut-être l'argent aujourd'hui? Jésus a dit que tu ne peux pas servir Dieu et maman, c'est un ou l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui tu dois dire au Seigneur, deviens mon Dieu aujourd'hui. Et toi chrétien ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose à confesser? Est-ce que toi aussi peut-être tu t'es fait embarquer par le système du monde et peut-être que tes priorités, tes aspirations, tes passions étaient sur ce qui n'est pas droit et juste devant le Seigneur? Demande pardon et reviens au nom de Jésus-Christ. Amen.